I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue au Jardin de Parole, une émission de Michel Giroux. Nous nous retrouvons au Jardin de Novembre avec notre invité, Félicité Lagier.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be just.
Elle nous lit le dernier discours de Franz Stock, l'abbé Franz Stock, directeur du séminaire des Barbelés, à l'occasion du deuxième anniversaire de la création du séminaire, le 26 avril 1947, quelques semaines avant sa fermeture définitive.
Oui, bonjour chers auditeurs de Radio Conciel. J'ai un grand plaisir de participer à cette émission et de vous faire découvrir ce discours que Franz Stock a prononcé après un bref séjour qu'il a fait après la Deuxième Guerre mondiale dans son pays natal, l'Allemagne. Et il a donc vu les destructions. Il y a plusieurs villes qui étaient complètement détruites et il a vu effectivement ce désastre. Et il prononce ce discours sous l'influence de ses souvenirs de ce voyage en Allemagne. Il s'adresse donc à plusieurs prisonniers allemands de guerre qui étaient étudiants en théologie, regroupés dans ce séminaire des Barbelés, et il s'adresse à eux, et sachant qu'ils vont renouveler le clergé dans l'Allemagne d'après-guerre. Je voudrais maintenant m'adresser à vous, mes chers théologiens, et vous invite à considérer mon propos comme un programme. Car vous savez bien, aussi bien que moi, que dans la crise actuelle, les structures à laquelle l'homme d'Occident est aujourd'hui confronté, le théologien et le jeune prêtre, à la différence d'autrefois, affrontent sans détour et sans s'esquiver les questionnements de notre temps. L'esprit lucide et le cœur grand ouvert, ils se trouvent sur le devant de la scène, au cœur même des événements, révélant les dangers, guérissant les blessures, afin d'apporter salut et consolation à ceux qui cherchent et désespèrent. Notre monde a changé, et vous serez effrayés à la vue des bouleversements que cette guerre a provoqués dans les âmes et dans les esprits des hommes. La preuve devra alors être apportée que la protection et l'isolement du séminaire ne vous ont pas éloigné du monde, mais au contraire, vous en formez de telle façon que l'élan et l'optimisme de votre jeunesse puissent résister aux assauts. C'est alors que nous pourrons vérifier si au fil des années écoulées, nous avons pris les choses au sérieux et si c'était juste. Quand un tremblement de terre ébranle une ville, les clochers s'écroulent en même temps que les monuments et les maisons. Quand une crise économique et sociale bouleverse le monde, les institutions et la vie de l'Église ne restent pas indemnes, car elle ne peut exister à l'écart de l'histoire générale. Plus la crise est profonde, plus elle met sens dessus-dessous les valeurs fondamentales de l'existence humaine. Plus violente aussi est la secousse qui ébranle le corps de l'Église. Beaucoup de choses aujourd'hui sont sur le point de s'effondrer, d'éclater. Autour de nous, plus rien n'est stable, plus rien n'est sûr. Les convictions héritées du passé, telles les valeurs des bienheureuses mémoires, s'estompent et les hypothèses les plus incongrues trouvent des adeptes. Dans de telles circonstances, il serait surprenant que l'Église incarnée et humaine restât une oasis de calme en marge de la dissolution universelle. Ceux qui en elle relèvent du divin et de l'éternel restent immuables, mais l'homme, quant à lui, est emporté dans le tourbillon d'une danse endiablée à la manière de la sarabande espagnole. La civilisation moderne, poussée toujours plus loin par le progrès technique, qui en l'espace de 150 ans a bouleversé la vie sociale, évolue à une vitesse vertigineuse. Une nouvelle civilisation se fraye un chemin, se présentant dans un premier temps sous les traits d'une barbarie mécanisée. L'humanité, arrivée à la croisée des chemins, peut alors se tromper de direction et choisir la termitière humaine ou le suicide atomique, au lieu de s'orienter vers le progrès authentique, celui qui consiste à maîtriser par l'esprit les réalisations de la science et de la technique afin de les mettre au service de l'homme. Dans ce nouveau Moyen-Âge, l'Église peut assumer le rôle qu'elle joua au seuil du grand Moyen-Âge. En tant que messagère du surnaturel, elle peut sauver la nature. Mandataire de Dieu, elle peut libérer l'homme. Notre civilisation est lassée de l'individualisme. Elle se tourne vers des institutions communautaires, mais elle les cherche là où elles ne peuvent s'épanouir. Au sein d'un parti politique ou dans l'État. L'Église se doit de lui servir de modèle parfait d'une communauté, car précisément, elle fonde ses communautés terrestres sur la participation à la communauté suprême, celle du corps mystique du Christ. Notre époque parle toujours des masses humaines, et nous savons bien que les masses humaines aujourd'hui sont plus éloignées du christianisme que ne le furent les païens des terres inexplorées. Le temps des grandes persécutions peut ressurgir de nouveau, où les chrétiens seront déclarés ennemis par excellence de l'humanité. Cette proximité du paganisme exige de nous de trouver de nouveaux moyens efficaces. La possibilité du martyr réclame de nous un retour aux sources, à l'esprit du temps où le sang des martyrs se mêlait quotidiennement au vin de l'Eucharistie. Face à une époque paganisée, l'Église redevient missionnaire. Mais vouloir être missionnaire, cela ne se traduit pas seulement par des méthodes, mais s'exprime par l'esprit qui doit guider tout le clergé et tout le peuple fidèle. Tétanisés par l'existence de ces masses humaines, certains semblent devoir croire que l'idéal chrétien des temps modernes consiste à s'effacer dans la masse, comme une goutte de pluie se dissout dans l'océan. Mais même dans la masse humaine, le chrétien doit se faire remarquer, doit déranger, doit heurter, car c'est précisément par ce scandale qui choque que commence l'apostolat. Et ce christianisme doit être viril, un christianisme de présence affirmée qui ne craint pas l'affrontement, qui réclame un engagement, un christianisme lumineux comme un phare pour éclairer les ténèbres, un christianisme d'acier pour un siècle de fer, un christianisme flamboyant pour notre temps de l'énergie nucléaire. Notre siècle est activiste, agité, il est érotique, confond le spirituel et le temporel. Notre siècle voit triompher les haines, il est anarchique, révolutionnaire, il voit s'enchaîner les catastrophes, il entasse ruine sur ruine dans les villes comme dans les âmes. Notre siècle atomisé, divisé en nationalisme aussi ridicule qu'un costume de zouave suranné. Ainsi, notre siècle a deux pôles. L'un nous pousse vers l'apostasie, l'autre vers la sainteté. L'un rejette l'Église, l'autre l'attire. Il importe, tout en étant enfant de notre siècle, de réconcilier l'Église et le monde moderne. Le nombre de saints voulus par Dieu suffit à sauver une époque. Des saints qui se vouent à cette vocation et qui transforment en vertu les agissements de notre temps. Des saints qui renoncent aux amours humaines et qui savent à quoi ils renoncent, qui par le spectacle et l'exemple de leur vie poursuivent le chemin de l'ordre humain. Des saints qui n'ont pas peur des catastrophes ni des révolutions, mais qui savent profiter de toute occasion et orientent tout leur être vers le second avènement du Sauveur. Des saints qui réconcilient l'attachement à leur patrie charnelle et l'amour pour l'humanité par-delà les frontières des nations, des empires, des races et de classes. C'est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté par la voie de l'histoire et nous devons le suivre pour apporter au monde le message de liberté et de paix, de salut et d'amour. Ce devait être pour nous tous un legs sacré en ce second anniversaire de notre séminaire de recevoir en nous ce message de vie et de l'apporter à l'humanité souffrante. Thank you.
Merci pour cette présentation de ce discours. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi le discours de Franz Stock.
Je suis allemande et je suis à Chartres depuis de longues années. J'ai découvert Franz Stock à Chartres. Je trouve que c'est un personnage qui effectivement a joué un rôle clé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il mérite d'être connu par plus et il a été un visionnaire. Son procès en béatification, elle a été ouvert en 2009 et je fais partie d'un fonds de dotation qui a créé le prix Franz Stock, qui justement veut d'encourager les projets et des initiatives qui sont destinées à aider l'humanité souffrante dans l'esprit des valeurs de Franz Stock, dans cet esprit évangélique de Franz Stock.
En quoi ce discours, en grande partie pessimiste, est-il pourtant un message de vie pour nous aujourd'hui ?
Alors je ne qualifierais pas de pessimiste ce discours. Je dirais plutôt que c'est un discours lucide sur une situation donnée. Pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore Franz Stock, c'était le recteur de la paroisse allemande dans les années 30. Il a également été sollicité ensuite par les Allemands après l'occupation s'occuper dans les prisons où étaient les résistants, de s'en occuper pour les préparer à leur exécution. Ce discours est donc lucide dans la mesure où il ne cherche pas à embellir la situation. Il prépare ce futur clergé à sa tâche rude en Allemagne, dans l'Allemagne d'après-guerre.
Mais en quoi est-ce un message de vie pour nous aujourd'hui ?
Pour nous, c'est un message parce qu'il nous dit que chacun, en tant que chrétien, peut apporter sa part pour aider son prochain, pour s'investir dans des projets qui aident les gens qui souffrent à sortir de leur misère, de leur souffrance. Et donc, c'est en fait un appel qu'il lance à tous, pas seulement à ses théologiens, mais à tous.
Merci de nous avoir fait découvrir ce discours de Franz Stock, ou redécouvrir pour certains auditeurs. Nous aurons l'occasion d'entendre dans une autre émission comment les habitants de Neheim, ville natale de Franz Stock, comprennent aujourd'hui ce discours. Pour l'heure, je vous souhaite un bon mois de novembre, chers auditeurs. Merci à vous et à Simon, notre technicien, et à Félicité Lagier, notre invitée du jour.
Merci Michel, au revoir.
Au revoir.